prendre le temps, d'inclure ce temps dans son emploi du temps quotidien, de ne pas culpabiliser, de prendre une demi-heure de plus pour se déplacer le matin, par exemple, si c'est possible, encore une fois, pour marcher au lieu de prendre les transports en commun.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Angèle Châtelier, je suis ravie de vous retrouver dans Mon Trajet Vert, le podcast, une série de 6 émissions consacrées à la mobilité quotidienne des étudiants. Pour ce 3e épisode, nous allons faire fonctionner nos jambes et parler de marche à pied. Oui, la marche, c'est un peu la grande oubliée de la mobilité quotidienne, un moyen de déplacement évident et facile, mais qui n'est pas toujours considéré et même difficile à quantifier. Cependant, la dernière étude « Marcher et pédaler » du ministère de la Transition écologique date de 2021 et elle montre qu'un quart des déplacements les plus proches se font à pied. Mais elle est souvent combinée à d'autres modes de transport comme le bus ou le vélo. Elle reste perçue comme un complément. Pourtant, marcher a de nombreuses vertus, on en parlera pendant cet épisode. La marche, c'est simple, c'est économique et c'est bon pour la santé. Alors il semble grand temps de réhabiliter et de promouvoir la marche à pied, d'en faire un mode de déplacement à part entière. Et pour ça, je peux compter sur Alice et Paul, deux étudiants parisiens qui, tous les deux, ont fait de la marche un art de vivre. Paul, Alice, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous dans ce nouvel épisode de Mon Trajet Vers le podcast. Alors tous les deux, vous n'avez ni trottinette, ni vélo, ni voiture. Vous ne prenez le bus et le métro que quand vraiment c'est nécessaire et que vous y êtes obligés. Est-ce que vous êtes un peu téléporté de la préhistoire ?
Non, je me considère pas comme ça du tout. Au contraire, je trouve que la marche, ça permet d'envisager les trajets qu'on fait comme un voyage et pas seulement une téléportation dans un lieu dont on maîtrise pas le contexte, le contexte urbain environnant. Et ça permet à la fois de se détendre l'esprit et de mieux connaître les lieux dans lesquels on se rend, donc de se préparer un petit peu à l'avance et même quand on en sort après, de faire une transition douce et pas une transition immédiate avec le métro en souterrain.
C'est très joli cette notion de voyage, on va y revenir. Toi, Paul, c'est un peu la même chose qu'Alice ?
C'est ça, je pense qu'on ne marche pas assez dans la vie de tous les jours. On est dans une des plus belles villes du monde, la plus belle capitale du monde, je pense. Donc, ça serait dommage de ne pas en profiter à sa juste valeur.
Qu'est-ce qui vous a donné le goût de la marche ? Est-ce que c'est venu un petit peu comme ça, en vous disant « Ah, mais en fait, c'est vraiment le mode de transport que je préfère ?»
Ah oui. Ah oui, oui, moi, c'est venu comme ça. J'ai toujours adoré marcher. Et d'ailleurs, quand je marche, je n'écoute pas de musique, j'aime bien être pleinement présente dans les rues que je traverse. Et c'est aussi pour le côté activité physique, bien sûr. C'est le côté découverte, voyage, voir des beaux bâtiments, mais aussi le plaisir physique, tout simplement.
Est-ce que vous savez combien de pas vous marchez par jour ? Quelle est votre distance ? Est-ce que vous savez ça ?
Je pense que sur une moyenne basse, je dirais que je suis aux alentours des 15 000 minimum.
15 000 pas ?
Je marche beaucoup,
ouais. Tu sais ce que ça représente à peu près en minutes ?
En minutes de marche, non, je ne saurais pas vous le dire
exactement. C'est une demi-heure, trois quarts d'heure peut-être, au moins par jour, mais plus que ça, bien plus que ça.
Bien plus,
plus que ça, tu saurais dire, toi, Alice, à peu près.
Je ne sais pas, mais il me semble que 12 000 pas, c'est quand même... Alors 15 000, je ne sais pas, mais moi, c'est plutôt autour de 12 000, c'est 2 heures par jour, quand même.
2 heures par jour, quand même, c'est dingue. Pour quel type de trajet vous utilisez la marche ? Est-ce que c'est pour aller en cours ? Est-ce que c'est pour rentrer, aller voir vos amis ?
Je m'en sers du coup pour aller en cours, je m'en sers un petit peu avant de prendre les transports du coup. Et les soirs, si jamais il faut bouger quelque part, j'essaie de m'en servir au maximum en tout cas. Et pour aller au sport également, durant l'entraînement aussi.
Toi aussi Alice ?
Oui, pour tout. En fait, dès que j'ai l'opportunité de marcher et que je ne suis pas directement contrainte par le temps, je choisis de marcher et en fait, je fais un master d'histoire, donc je dois me rendre souvent dans des lieux d'archives. Et là, pareil, j'y vais le plus possible à pied, justement pour m'imprégner du contexte urbain avant.
Alors, vous l'avez un peu dit, toi, Paul, tu as 21 ans, tu étudies en école de commerce et tu as choisi de te rendre dans l'entreprise où tu effectues ton alternance uniquement à pied. Est-ce que tu étais un adepte de tout ça ? C'est devenu... un peu une habitude ou ça allait de soi pour toi de faire ça ?
Je ne me suis pas posé vraiment la question. Pour le coup, c'est venu plutôt naturellement. Je me suis dit pourquoi pas y aller à pied, j'ai l'occasion de le faire. C'est pas si loin que ça, donc en soi, autant en profiter.
Tu mets combien de temps ?
Je mets une petite demi-heure.
Petite demi-heure quand même le matin. Et toi, Alice, tu es étudiante en deuxième année de master d'histoire à l'université. Et justement, tu nous disais que chaque trajet est un voyage. Je trouve ça vraiment très joli de voir ça comme ça. De quelle manière c'est un voyage ? C'est parce qu'on est un petit peu peut-être dans l'oisiveté du moment. On regarde ce qu'on a autour de soi, on écoute les bruits, c'est ça ?
Oui, c'est ça, on est pleinement attentif à notre contexte, alors que dans le métro, on est toujours un peu réfugié dans notre bulle, sur notre téléphone, moi la première. Et marcher, ça permet quand même de s'aérer l'esprit. Quand on marche, le cerveau marche mieux en général. Et ça a tout de suite été un choix de pas me rendre en cours, en transport. Et aussi, il faut savoir que moi, je fais de l'histoire sociale et de l'histoire religieuse. Donc, j'aime bien, justement, quand j'ai l'opportunité de me déplacer pour aller trouver des archives, j'aime bien m'imprégner aussi du contexte social du quartier que je traverse et voir un petit peu les lieux de sociabilité, là où les gens se regroupent, les marchés, les choses comme ça.
On en voit beaucoup qui marchent voilà, avec un casque sur les oreilles. Toi, tu le disais, Alice, tu n'as rien dans les oreilles. Alors, il faut aussi dire que ça, c'est dangereux, voire même souvent interdit. Il faut quand même pouvoir entendre son environnement derrière soi. Mais toi, c'est un choix. Je sais que, par exemple, j'ai une amie qui, elle, a découvert plein de podcasts super en marchant. Toi, non, au contraire, tu préfères regarder ce que tu as autour de toi.
Oui, parce que sinon, je me laisse très facilement happer par la musique ou par le podcast et je me rends compte que je ne suis pas très attentive à mon contexte et parfois ça peut être effectivement dangereux si on doit traverser la rue, quelque chose comme ça.
Et toi, Paul, je crois que c'est différent.
J'utilise beaucoup les AirPods, ouais. Là, pour le coup.
Qu'est-ce que tu écoutes généralement quand tu marches?
J'écoute un peu de tous les styles de musique, plutôt musique années 70-80 et pas mal de musique actuelle aussi.
Parce que ça te donne l'impression d'être vivant ou ça te fait quoi comme sensation de marcher avec de la musique?
Je pense que c'est une habitude, j'ai pris l'habitude d'avoir beaucoup les écouteurs parce que je passe pas mal de temps au téléphone, donc j'ai vraiment l'habitude de les avoir et c'est surtout une question d'habitude.
Et justement, tu ne trouves pas ça tant dangereux que ça? Tu te dis, bon, je suis quand même dans mon environnement, je fais attention.
J'arrive à faire attention pour le coup.
Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie à tous les deux, la marche quotidienne? Tu l'as un petit peu évoqué, Alice, le côté, ça me fait du bien à la tête. Beaucoup d'écrivains, d'ailleurs, ont écrit des livres, des pensées en marchant. Ça fait du bien physiquement. Qu'est-ce que ça a apporté à vous, la marche quotidienne?
Moi, ça m'a apporté beaucoup moins de fatigue dans mon quotidien. Déjà parce que je culpabilisais moins du temps de transport que je prenais. Quand on prend le métro, on a un peu l'impression que c'est du temps perdu. Alors que quand je marchais, déjà, je me rendais compte de la distance que je parcourais. Donc, je culpabilisais pas de pas travailler immédiatement après parce que j'avais fait un petit effort physique. Voilà, je m'étais déplacée dans un lieu qui est loin de mon lieu de vie habituel. Et ça m'a apporté un meilleur tonus physique aussi, au-delà de ça.
Et puis, on a l'impression parfois, quand on marche, qu'il peut y avoir des pensées qui se règlent. Je ne sais pas si ça peut vous faire ça, de marcher pendant 30-40 minutes. On pose et on remet les choses. C'est un peu ça aussi que ça peut vous apporter, toi, Paul?
Moi, je pense que j'ai pris l'habitude de marcher très jeune. Comme je ne suis pas originaire de Paris, vraiment de la campagne, donc je marchais beaucoup déjà depuis tout petit. Et j'ai combiné ça avec le sport, donc je fais fonctionner mes jambes relativement souvent, même toute la semaine quasiment. Donc du coup, c'est plutôt une habitude que j'ai depuis enfant.
Pour autant, vous êtes parfois contraint de prendre les transports en commun, j'imagine, ou de prendre d'autres modes de transport. C'est à quel moment vous avez besoin de prendre d'autres moments de transport? C'est en vous disant, moi là, je mets 2 heures pour marcher quand même, donc c'est un peu beaucoup, mais est-ce que ça arrive souvent?
Pour me rendre en cours, j'utilise le RER pour aller du 10e jusqu'à la Défense.
Parce que sinon, ça ferait beaucoup. Et toi, Alice, c'est pareil?
Moi aussi, c'est dès qu'il faut sortir de Paris en général, ou aller à l'autre bout de Paris, je dois quand même prendre soit un bus, soit un métro. En général, je préfère prendre le bus quand même parce qu'encore une fois, on se rend compte un petit peu de la distance qu'on parcourt. On voit des gens, on voit un petit peu des bâtiments et ça me permet de m'imprégner un peu du contexte encore une fois.
Est-ce que vous avez l'impression que votre entourage ressent la même chose que vous? Que ce soit vos amis, votre famille, est-ce qu'ils aiment autant la marche que vous?
La famille, je ne suis pas sûr pour le coup. Mais dans les amis, on marche beaucoup ensemble généralement. Ouais. Quand on se retrouve, on essaie de tous venir à pied donc... Je pense que oui.
C'est un peu ce que j'allais vous demander, c'est est-ce que parfois ça peut être un frein avec vos amis de se dire on va aller d'un endroit à un autre, moi je préfère marcher, et d'autres qui vont dire j'ai pas envie de marcher 1 heure. Ah, ça a l'air de t'arriver souvent, Alice, non?
Oui, ça peut arriver, mais surtout avec ma famille, parce que depuis que je vis à Paris, je suis pas du tout originaire de Paris, j'ai pris l'habitude déjà de marcher beaucoup et de marcher rapidement en plus. Alors ma famille a du mal à me suivre en général et c'est vrai qu'ils ont tendance à plus regarder l'offre de bus disponible ou de métro, alors que moi je me dis systématiquement que je vais y aller à pied, quitte à prendre un petit peu plus de temps.
Est-ce qu'il y a des heures où vous avez davantage envie de marcher? Est-ce que vous préférez le matin, par exemple, le soir? Parce que c'est pas du tout les mêmes ambiances, que ça soit dans les villes urbaines ou même pas urbaines. Qu'est-ce que vous préférez, vous?
Je préfère plutôt la nuit, en fin de journée.
Parce que t'es plus tranquille?
Tout est plus calme.
Ouais. Alice, toi, c'est pareil?
Moi, j'aime beaucoup le matin parce qu'on voit la ville qui se réveille et ça nous met dans une bonne ambiance pour commencer la journée.
Paris s'éveille à 5h du matin. Pour finir, on parlait justement de voyage intérieur. Lorsque vous allez dans d'autres villes de France ou à l'étranger, est-ce que vous utilisez aussi ce mode de déplacement principalement?
Bah oui, tout à fait. Ça permet de visiter du coup déjà les lieux où on est. Ça permet de faire plein de rencontres avec... On a plus de facilité à parler avec des gens dans la rue plutôt que dans un transport en commun, bien évidemment. Donc oui, bien sûr.
Oui, je suis tout à fait d'accord, ça favorise les rencontres inattendues et c'est beaucoup plus agréable.
Au-delà de tout ce que vous venez de nous dire, qui serait déjà une bonne raison de se mettre à la marche si on ne le fait pas, est-ce que vous auriez un petit conseil pour celles et ceux qui, justement, aimeraient marcher plus?
Mais je dirais de prendre le temps de marcher, justement d'anticiper un petit peu ses déplacements pour se dire qu'on n'est pas contraint immédiatement de prendre le métro parce qu'on n'a plus que 20 minutes pour se rendre à un endroit, alors quand c'est possible évidemment, mais d'inclure ce temps dans son emploi du temps quotidien, de ne pas culpabiliser, de prendre une demi-heure de plus pour se déplacer le matin, par exemple, si c'est possible, encore une fois, pour marcher au lieu de prendre les transports en commun.
Parce que ça a plein de bienfaits et évidemment, on va y revenir. Restez avec moi, Alice et Paul, j'ai d'autres questions à vous poser, mais je vous propose de rejoindre nos invités pour cette deuxième partie de Mon trajet vers le podcast.
Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez. J'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire.
Et pour parler de cette grande oubliée de la mobilité quotidienne, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts de la marche. Éline Lundmark, vous êtes chargée de mobilité piétonne à l'ADMA, l'Académie des mobilités actives. À vos côtés, nous avons Charlotte Glorieux de la start-up Macadam. C'est une application sociale qui incite les utilisateurs à bouger. Elle propose même de gagner de l'argent en accumulant des pas. Vous nous expliquerez ça dans un instant. Et bien sûr, nous sommes toujours avec Alice et Paul, nos marcheurs que vous connaissez mieux maintenant. Alors Éline et Charlotte, je vous pose un peu la même question qu'à Alice et Paul, nos étudiants. Combien de pas vous avez fait aujourd'hui, vous diriez, à vue de nez comme ça, aux doigts mouillés?
Moi, j'ai pas énormément marché aujourd'hui.
Ça arrive, il y a des jours où on ne marche pas quand même.
Je marchais de mon vélo jusqu'à ici, mais ça arrive que je marche beaucoup plus. Et l'autre jour, effectivement, je marchais au travail et ça me prit une heure et quart.
Une heure et quart, ouais.
Et du coup, je marchais avec une collègue et effectivement, le ressenti que j'ai eu, ça rejoint aussi ce qui a été dit par Paul et Alice sur le bienfait de la marche.
Et moi, pour l'année passée, puisque j'ai regardé mes statistiques avant de venir, je fais en moyenne 6000 pas par jour, ce qui équivaut à un peu moins d'une heure en moyenne.
Ah mais on est, oui, dans la moyenne haute, je pense, par rapport à d'autres gens, une heure par jour, c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte. Éline, quelle place tient la marche à pied dans les mobilités actives aujourd'hui?
Bah, comme vous l'avez déjà mentionné, on voit que 23% de l'ensemble des étudiants utilisent la marche comme mode de déplacement principal pour ses trajets entre domicile et lieu d'études. Donc après le transport public, c'est le déplacement qui est le plus pratiqué chez les étudiants. Et après, on peut aussi voir qu'il y a beaucoup de trajets qui sont faits avec d'autres modes de déplacement, mais qui incluent également le trajet à pied. Donc, par exemple, il y a une étude de 2017 du Nord et Pas-de-Calais qui montre qu'une étudiante sur deux marche au cours de son trajet domicile-campus. Donc, ça veut dire que la marche a quand même une place très importante dans les déplacements des étudiants aujourd'hui.
Aussi parce que j'ai envie de dire que marcher, c'est gratuit, contrairement au transport en commun, à la voiture. Ça peut expliquer aussi ça, j'imagine, les chiffres que vous venez de nous donner.
Oui, oui, sûrement, j'imagine. Mais je pense aussi que souvent, c'est parce que ça peut être une mode de déplacement pratique qui est souvent combiné avec le transport public. Parce que c'est vraiment là aussi qu'on voit qu'il y a beaucoup de trajets qui sont réalisés à pied, justement combinés avec le transport public, qui est du coup le mode de déplacement le plus utilisé.
Comment on peut expliquer ce statut un peu périphérique, si je puis dire, de grande oubliée de la marche?
Je pense qu'il y a plusieurs explications. Moi, j'en ai identifié trois et après, il y en a sûrement plein d'autres. Mais déjà, la marche est souvent invisibilisée dans les enquêtes de déplacement.
Ah oui, ok.
Par exemple, sur l'étude sur les déplacements des étudiants, on voit que la marche n'est pas indiquée dans les données s'il est combiné avec un autre mode de déplacement, parce que du coup, on prend en compte le déplacement qui est le plus important, en fait, les modes de déplacement sur lesquels on a placé le plus de temps. Donc, par exemple, si on marche 10 minutes et ensuite on prend le transport public pendant 20 minutes, c'est quand même le transport public qui va être indiqué dans les données. Et du coup, sur une échelle nationale, on voit que les trajets à pied représentent 37% à la place de 24% si on intègre justement ces trajets où la marche fait partie des au moins 5 minutes de son déplacement. Et aussi encore, en lien avec ces enquêtes, en fait, c'est facile à oublier la marche. C'est-à-dire, quand on réalise ces enquêtes, on pose la question, comment est-ce que vous vous êtes déplacé hier? Et c'est facile de se rappeler qu'on appelait le transport public pour se rendre à l'école, covoiturage pour rentrer. Mais le fait qu'on a fait 10 minutes de marche pour chercher quelque chose à la boulangerie le midi, c'est facile à l'oublier. Donc, c'est aussi une manque de données quand on regarde vraiment les données sur le déplacement. Après, je pense que c'est aussi une question de la complexité de la marche. C'est-à-dire, quand les collectivités travaillent sur des sujets de la mobilité piétonne, il faut intégrer des services qui travaillent sur l'espace public, la voirie, les espaces verts. Il faut faire les liens avec la santé, l'éducation, le vieillissement, etc. Donc, c'est vraiment assez complexe comme sujet à traiter. Et souvent, il y a un manque de ressources aussi par avoir quelqu'un qui pilote ces sujets. Donc, ça passe un peu à la trappe parce que c'est effectivement un sujet qui devrait être pris en compte un peu partout. Ça rejoint la troisième raison pour laquelle je pense que c'est un peu à l'oublier, c'est qu'il n'y a pas forcément d'acteurs qui militent aujourd'hui, qui défendent vraiment la place des piétons. En tout cas, il y en a peu.
Oui, il n'y a pas des syndicats de marcheurs ou voilà, comme il peut y en avoir pour les vélos ou les transports, par exemple.
Tout à fait, tout à fait. Et du coup, c'est intéressant parce que nous sommes tous, c'est tous piétons, mais il y a peu de monde qui s'identifie vraiment comme « moi, je suis piéton et du coup, je vais le défendre ». Même s'il existe, bien sûr, des associations PMR, des associations cadre de vie et aussi des associations nationales en faveur de la marche. Et du coup, si on compare par exemple avec les associations qui militent en faveur du vélo, on voit qu'ils sont bien implantés dans plusieurs territoires et vraiment quand il y a des aménagements de l'espace public, il peut vraiment s'assurer que la place des cyclistes est prise en compte. Il existe un peu pour la mobilité piétonne, donc pour les piétons, mais pas autant.
Quelles sont ces infrastructures justement qui peuvent être mises en place pour les piétons? Parce qu'on se dit pour les vélos, il y a des pistes cyclables. Pour les vélos, pour les marcheurs, c'est quoi des trottoirs?
Les trottoirs, ouais, effectivement, c'est très important et pas uniquement d'avoir un trottoir, mais aussi avoir un trottoir qui a une largeur qui est adapté aussi à la pratique dans ce lieu en particulier. On voit qu'à Paris, par exemple, il y a beaucoup de piétons et on peut souvent se retrouver avec des trottoirs très étroites où on peut avoir de mal à se croiser. Si on marche avec une poussette, avec un fauteuil, etc., ça peut être difficile de se déplacer ou que le trottoir qui existe est laissé pour autre chose, par exemple mettre des poubelles, stationner des vélos, etc., qui oblige du coup les piétons de marcher sur la chaussée. Donc les trottoirs, effectivement, c'est un sujet très important pour rendre la ville plus marchable. Mais après, il peut y avoir plein d'autres manières également. Donc, il n'y a pas que des trottoirs.
Est-ce que vous le ressentez, ça, Paul et Alice, ces infrastructures? Parce que c'est intéressant ce que vous soulignez, Éline. Est-ce que vous vous sentez parfois un peu lésée dans vos qualités de marcheur? Par exemple, Alice, je te vois, oui.
Oui, tout à fait. Alors, dans Paris, mais surtout en périphérie de Paris ou en proche banlieue parisienne, justement là où sont les centres d'archives, rien n'est fait pour la marche. En fait, il n'y a quasiment pas de trottoir. Tout est pensé pour les voitures. Et d'ailleurs, ce n'est pas indiqué pour les piétons si on doit se rendre quelque part. Le trottoir est tout petit, c'est pas très agréable, on se fait frôler par les voitures et c'est vrai que c'est un impensé quand même. Et pourtant, il y a de belles pistes cyclables parfois dans ces endroits-là aussi, mais la marche est un grand impensé.
Et puis alors qu'on est toujours piéton, au moins un moment, on reste piéton, même si on est cycliste ou pas cycliste. Vous l'avez un petit peu évoqué, Éline, mais quels peuvent être les freins principaux aujourd'hui qui empêcheraient les jeunes? Vous avez évoqué le chiffre à peu près de 30%, mais qu'est-ce qui empêche les 70% autres de ne pas marcher?
Moi, je vais bien présenter des freins généraux qu'on peut identifier. Après, je pense que c'est aussi super intéressant des côtés pour les Alice, pour qu'ils puissent aussi présenter peut-être ce qu'ils entendent aussi autour d'eux. Mais la question des distances, effectivement, c'est quelque chose qui est très important. Et justement, la perception de distance. Donc, c'est intéressant ce qu'il disait Alice, que quand on marche, on se rend compte de la distance qu'on parcourt. Parce que souvent, on peut avoir une idée que c'est beaucoup plus loin de marcher. On a une idée que ça prend 20 minutes pour aller, au centre-ville. Mais quand on marche, on se rend compte que c'est que 10 minutes. Donc, la marche est souvent surestimée, là où la voiture est souvent sous-estimée. Et on prend rarement en compte aussi le fait qu'il faut se stationner quand on utilise la voiture, etc. Donc la distance et là, le temps de marche acceptable est très individuel. Donc ça varie beaucoup pour différentes personnes, en tant qu'ici, effectivement, on marche peut-être plus que d'autres. Et par exemple, quand je regardais les chiffres sur les étudiants, les personnes qui marchent, du coup, pour se rendre à son lieu d'études, ils marchent environ 19 minutes pour se rendre à son lieu d'études, qui est du coup moins ce qui a été exprimé ici. Donc on voit que ça varie selon différentes personnes, et ça peut aussi être selon les contextes. Si le lieu où on marche est agréable, s'il fait beau, s'il n'y a pas des bruits pour qu'on puisse aussi discuter en même temps, etc. Donc la distance, la perception de la distance, la question de la sécurité, donc sécurité routière mais aussi accessibilité. Par exemple, la proximité de circulation motorisée, ça peut souvent être vécu comme accidentogène et dangereux. Donc il y a nécessité d'avoir des trottoirs, on a parlé, mais aussi des traversées sécurisantes. Des barrières urbaines, c'est aussi quelque chose qui peut être problématique quand on a justement des grandes autoroutes, des rails aussi qui forcent les piétons de faire des grands détours, qui du coup incitent aussi le trajet de devenir plus long.
Est-ce que les mairies ou les collectivités font attention à ça? Vous sentez de plus en plus ou oui?
Complètement, je pense que depuis quelques années, on voit vraiment comment le sujet de la mobilité piétonne devient un vrai sujet et des collectivités investissent plus de ressources humaines. Sur ces sujets, il y a plusieurs villes qui mettent en place des plans piétons et on voit aussi comment ils essayent d'intégrer la perspective, l'expertise d'usage des piétons dans des projets pour vraiment aussi se rendre compte. Qu'est-ce que c'est une itinéraire marchable? Comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer aussi les besoins de tout type d'usagers?
Charlotte, je me tourne vers vous. Vous êtes Head of Revenue de l'application Macadam, si je le dis bien. Quelle est l'histoire de cette application et de ce service?
Alors tout d'abord, pour présenter Macadam, c'est une application qui récompense ses utilisateurs pour marcher et qui les motive à marcher grâce à des fonctionnalités de gamification et des fonctionnalités sociales aussi. Macadam, c'est une application qui a été lancée en 2022 par Benjamin, Baptiste et Louis et qui a été créée pour répondre à deux enjeux majeurs. Le premier, c'est un enjeu de santé. On en a parlé, l'inactivité physique est un problème grandissant, en particulier chez les jeunes. Il y a une statistique qui est assez incroyable, c'est de se dire qu'entre 18 et 24 ans, on passe en moyenne 7,1 heures par jour en position assise, selon la Fédération française de cardiologie. Et en fait, le constat, c'est de se dire qu'en intégrant des récompenses pour encourager la marche au quotidien, on a un impact direct en fait, sur cette mobilité-là. D'ailleurs, on l'a constaté, nos utilisateurs augmentent leur nombre de pas journaliers de 20 à 30% en moyenne, donc ce qui est vraiment quelque chose d'impactant. Et il y a un deuxième enjeu, qui est un enjeu tout aussi important, qui est l'enjeu environnemental. En remplaçant en fait, des trajets courts effectués en voiture par de la marche, Macadam contribue à la réduction des émissions de CO2. Il faut se souvenir que les transports représentent 30% des émissions en France et la moitié des trajets urbains font moins de 3 km. Donc, c'est une distance idéale pour pouvoir marcher. Donc, comment cela fonctionne-t-il concrètement? J'en ai parlé avant. L'application permet de gagner des coins en marchant et ces coins peuvent être ensuite convertis en virement bancaire, à des dons à des associations, à des cadeaux, etc. L'application aujourd'hui, elle compte plus de 8 millions d'utilisateurs. La majorité d'entre eux sont des jeunes adultes, principalement étudiants ou jeunes actifs, qui cherchent justement à allier activité physique à avantages financiers ou solidaires.
Paul, tu utilises, je crois, cette application ou une autre peut-être, Macadam. Mais tu utilises une application similaire.
J'utilise Macadam.
T'utilises Macadam. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ton quotidien, cette application?
Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une fonctionnalité, du coup, qui est la map dans cette application-là. Et on peut ajouter, du coup, les amis qui l'utilisent également.
C'est un réseau social, en fait.
Ouais. Ça, on peut le considérer comme cela. Ouais. Et du coup, ça permet de voir un petit peu ce que les autres font, de se lancer des challenges entre nous. C'est aussi un côté ludique.
Ou de faire peut-être des formes de, de l'endroit où on marche. Moi, je vois ça pour les gens qui font du jogging. Donc, peut-être qu'on peut faire ça avec Macadam. Est-ce que tu as réussi, Paul, à convertir tes amis et ta famille à Macadam?
Quelques-uns, ouais, j'ai réussi.
Quelques-uns à la marche. Ils s'y sont mis de plus en plus.
De plus en plus, ouais.
Éline, depuis quelques années, l'urbanisation, elle a laissé beaucoup de champs au vélo, à la trottinette, on en a un petit peu parlé. On repense aussi les voies de bus, de quelle manière on peut faire encore mieux?
Dans des villes comme Paris, c'est important et on voit aussi que c'est quelque chose qui se fait maintenant, de questionner la place de la voiture pour aussi dédier plus d'espace pour les piétons. Ça rend déjà l'espace public plus agréable, plus sécurisant. Et ça permet aussi de mettre en place plus de végétation, qui est quelque chose qui devient le plus en plus important, surtout quand on voit que l'été, en fait, il fait le plus en plus chaud. Mmh. Et quand on marche, on passe du temps dans l'espace public et on a besoin de pouvoir être ombragé, avoir des bancs qui sont protégés de cette chaleur, etc. Donc, de questionner la place de la voiture, essayer du coup de rendre l'espace le plus agréable possible. Et je pense que d'avoir des bancs, super important. Autre chose, toilettes publiques, pour qu'on puisse passer du temps dans l'espace public. Après, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut agir, bien évidemment.
Est-ce que Macadam, votre application, Charlotte, pourrait aider un peu le travail des lignes et tout ce qu'elle vient de nous dire?
Alors nous, il y a quelque chose qu'on utilise et qui est assez important, et je reviens sur ce que disait Paul juste avant, c'est la gamification. En fait, on est persuadé que apporter justement ce jeu, c'est un levier puissant en fait pour ancrer durablement des nouvelles habitudes. Et d'ailleurs, Macadam s'appuie sur plusieurs facteurs pour inciter à marcher davantage. Le premier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'incitation financière. Il y a une enquête Ipsos qui a révélé que 85% des jeunes adoptaient plus facilement un comportement vertueux s'il y avait une récompense immédiate. Donc, effectivement, en plus de gagner des coins, on met à disposition de nos utilisateurs des réductions exclusives grâce à nos partenariats avec des marques engagées dans le bien-être, dans le sport. Et on réalise aussi de gros challenges, notamment avec un partenariat majeur qu'on a eu en janvier avec l'un des plus grands équipementiers sportifs. Donc ça, c'est vraiment le pilier très important, mais il y en a aussi d'autres. Typiquement, les défis et classements. Paul en parlait tout à l'heure, le fait de le faire avec des amis. L'aspect social et communautaire est au cœur de notre approche, parce qu'on est persuadé qu'en fait, se motiver ensemble, ça rend l'expérience beaucoup plus engageante et durable. Et d'ailleurs, 60% de nos utilisateurs disent que le fait d'avoir des défis entre amis et des challenges collectifs les aide à marcher plus. Et après, il y a tout ce qui est autour, effectivement, de la map, qui là ajoute une dimension d'exploration et de challenge, qui séduit particulièrement les étudiants. Et qui les aide justement à visualiser plus l'espace et l'impact qu'ils ont lorsqu'ils réalisent ça.
Éline, ça vous inspire ce type d'application comme Macadam? Comment vous pourriez travailler ensemble?
Moi, ça m'inspire. Je l'ai téléchargé et j'ai commencé à tester un peu pour me rendre compte qu'est-ce que c'était, parce que c'est un outil que je connais peu. Mais je pense que c'est intéressant. Je ne sais pas à quel point il y a aussi des données peut-être qui existent à partir de ces applications, parce que je pense que c'est aussi souvent ça qui est problématique quand on travaille sur la mobilité piétonne, c'est qu'on a un manque de données qui est vraiment un outil super important pour créer des stratégies qui sont pertinents, qui répondent aussi aux enjeux réels. Donc, je ne sais pas s'il y a des données qui sont en lien avec...
Tout à fait, tout à fait. Exactement, j'en parlais tout à l'heure. Donc, on augmente le nombre de pas en moyenne entre 20 et 30% versus un utilisateur qui n'avait pas l'application avant. Mais effectivement, on a beaucoup de données sur l'activité physique, ce que ça apporte et l'impact. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup en interne et qui nous aide aussi d'ailleurs à développer en fait des nouvelles features, etc., parce qu'on se base vraiment sur la data et aussi nos utilisateurs qu'on connaît beaucoup et auprès desquels on prend beaucoup de retours d'expérience.
Alice, tu serais intéressée, toi, par ce type d'application?
Oui, je serais très intéressée. Je ne connaissais pas vraiment, j'en avais vaguement entendu parler, mais personne dans mon entourage l'a téléchargée. Mais ouais, ça m'intéresserait beaucoup. Mais je ne suis pas quelqu'un de très connecté. Mon téléphone est très souvent éteint en général, donc je ne sais pas si ça...
Alors, c'est assez simple, puisque l'application est directement connectée en fait à ton Apple Santé, si tu as un iPhone, par exemple. Donc, en fait, tu n'as rien à faire. Les pas se comptabilisent automatiquement. Effectivement, nous, l'objectif, c'est de faire marcher plus les gens et pas de leur faire passer plus de temps sur le téléphone. Ça pourrait complètement te convenir.
Et peut-être qu'Alice pourrait demain nous parler des œuvres d'art qu'elle aura pu voir aussi, de mêler aussi ça. Paul et Alice, est-ce que vous ressentez un peu ce que disait Éline sur ces efforts d'urbanisation pour votre vie de piéton?
Oui, je trouve qu'on prend en considération la marche. Après, j'ai pas beaucoup de recul à l'échelle de Paris. Ça fait 2 ans que j'y suis. Donc, c'est peut-être un peu minime pour observer des changements. Mais c'est vrai que, pour rebondir sur ce que vous avez dit, les toilettes publiques, par exemple, ça manque beaucoup. Les bancs, ça manque beaucoup. Il y a quelques espaces où on en trouve quand même en quantité suffisante. Mais j'ai quand même l'impression qu'on prend de plus en plus en compte la marche. En tout cas, dans les espaces que je traverse, il y a quand même des trottoirs assez larges, de manière générale, dans le centre de Paris. Mais ça manque un peu peut-être en périphérie, dès qu'on s'éloigne vers les portes de Paris, je trouve que ça manque beaucoup.
Pour terminer, Eline et Charlotte, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de ce qu'a pu nous dire Alice de la marche comme un voyage? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, moi complètement. Je pense que depuis la pandémie du Covid, on a observé une transformation des mobilités urbaines avec un retour au mode doux. Comme le vélo, mais aussi la marche, bien sûr. La marche, d'ailleurs, a progressé à Paris de 35% en 4 ans. Donc, on le voit dans les chiffres. Elle offre beaucoup d'avantages. Et si je peux parler de mon cas personnel, moi, ce que j'aime dans la marche, c'est que ça stimule ma pensée créative. Et voilà, je pense que ça a de nombreux bénéfices. On en a déjà parlé, bien-être physique et mental. Donc complètement, moi, je suis complètement alignée avec cette image-là. Maintenant, il faut qu'on arrive aussi à installer cette tendance durablement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des initiatives incitatives et ludiques, qu'il y ait aussi une prise de conscience des bienfaits, et qu'on en parle plus, qu'effectivement les infrastructures soient plus adaptées. Mais je suis convaincue qu'on va y arriver.
Éline ?
Moi, je trouve ça incroyable qu'on puisse voir la marche comme un voyage. Et je me dis, je pense que notre objectif, ça va aussi de faire comprendre que c'est important de travailler sur ces sujets, justement pour que les piétons puissent le vivre comme un voyage. Parce qu'aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a beaucoup de piétons qui marchent parce qu'ils sont contraints à la marche. Ils n'ont pas vraiment d'autres manières de se déplacer. Et l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que marcher, ça devient tellement agréable que pour les gens qui ont aussi le manière où l'opportunité de se déplacer différemment et choisit quand même la marche. Donc je souhaite que la marche puisse être vécue comme un voyage pour les piétons dans le futur et je pense qu'on est sur le bon voie.
Un grand merci, Éline Houdemin. Je rappelle que vous êtes chargée de mobilité piétonne à l'ADMA, l'Académie des mobilités actives. Merci, Charlotte Glorieux. Vous êtes de la start-up Macadam, qui, on le rappelle, est une application sociale qui incite les utilisateurs à bouger. Merci infiniment, Paul et Alice, de nous avoir raconté vos voyages. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Mon Trajet Vert, le podcast. Je rappelle que Mon Trajet Vert est un programme d'économie d'énergie porté par l'école d'ingénieurs Saisie. Nous espérons que les réflexions, les idées partagées aujourd'hui vous donneront envie d'adopter des pratiques de mobilité plus durables et plus responsables. On se retrouve au prochain épisode. À bientôt.
Parce qu'être étudiant et s'engager pour une mobilité quotidienne durable, c'est possible.